Des oreilles avec des trous dedans,
des fusils folles pour mouler tout,
des DD avec des trous devant.
Sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, et aussi sur Radio Bazar Naom à Caen et sur le site de Radio Bazar Naom
et en FM aussi.
Ouais. Alors émission libre aujourd'hui avec une petite introduction live des DD. Sur des boîtes à musique.
Et si on a le courage, un jour, on fera une spéciale thématique boîte à musique.
Et si on a le courage, uniquement.
Ouais.
Ah, puis puisque ça me démange depuis des mois et puis que je me dis que j'en ai marre parce que ça me démange, et ben ça va plus me démanger.
Ouais, allez, vas-y.
Quand vous aurez bien ri, on vous mangera aussi. Tôt ou tard, tôt ou tard, on vous mangera le lard. Tôt ou tard, par endroit ou par endroit. Prenons-nous
dans nos bras, pognons-nous la couenne. Le temps nous manquera, quoi qu'il advienne. Tôt ou tard, tôt ou tard, on nous mangera le lard. Tôt ou tard, tôt ou tard, par un train ou par un bord. Le temps est un météore, mon corps est un corridor. Ma vie c'est mon seul trésor, j'en profite avant d'être mort.
Voilà.
Voilà, voilà.
Excellent ce dialogue avec les poules.
Ah ouais, ouais. Alors bon,
la fin est terrible. Quand c'est dommage qu'ils le fassent pas plus. Là, quand ils commencent à harmoniser les caquettements de poules, c'est génial.
Bon, alors bon, évidemment, je suis un peu scotché en ce moment. Je m'excuse auprès des auditeurs, mais je pense qu'on l'entend pas si souvent que ça en France. René Lucier. C'est encore lui. C'est encore René Lucier, ouais.
Mais c'est qui chante?
C'est lui.
C'est lui.
Ouais, c'est lui qui fait tout.
Ah là là.
C'est terrible. Hein. Oh et moi, je trouve ce mec, il est magique. C'est génial. C'est la folie. Quoi. Il fait tellement de choses différentes. C'est toujours aussi frais, aussi agréable, aussi inventif, aussi drôle. Et c'est grandiose. Voilà. Donc ça, c'est un disque de René Lucier. C'est un de ses derniers disques qui s'appelle Le Prix du Bonheur. Et qui est sorti au Québec il y a quelques années. Depuis, je ne sais pas trop ce qu'il fait, voilà, mais il a une discographie absolument gigantesque. J'ai continué à fouiller et il y a des disques et des disques et des disques et des disques que je trouve à droite à gauche. Et ça, c'est un disque où il écrit des chansons et chante la plupart des chansons à la guitare, il s'accompagne, il chante, et puis là, il y a quelques morceaux un peu plus arrangés. Et ce morceau s'appelle Tôt ou tard.
Tôt ou tard.
Qui me mangera. Ouais, c'est bien.
Oui. Alors, bon, comme il y a deux semaines, j'avais un peu raconté beaucoup de conneries. D'ailleurs, j'en profite pour en rectifier une tout de suite. Parce que, c'est déjà rectifié sur le site, mais en fait, vous vous souvenez de ce groupe Jukebox dont j'avais amené un morceau qui vous avait plu. Et que,
un compositeur autrichien.
Beaucoup. Ouais. Emmené par un pianiste et compositeur autrichien du nom de Johann Schmidt.
Oui.
Alors, en fait, il ne s'appelle pas Johann Schmidt et il n'est pas autrichien. Il s'appelle Fabrizio Rath. Oui. Rath. Et il est plutôt italien.
Voilà. Bah bravo.
Bah oui, je sais pas. J'ai fourché entre Fabrizio Rath et Johann Schmidt. Je sais pas.
Ouais, pourtant, ça se ressemble un peu.
C'est bizarre. Hein,
tous ces noms qui sont point français.
Une erreur d'aiguillage. ouais. Voilà. Donc, je me sens soulagé d'un poids sur la conscience énorme qui m'écrasait
depuis 15 jours.
Depuis 15 jours, ouais. Et maintenant, je vais pas déconner, quoi. Et là, je vais attirer votre attention sur une figure énigmatique de l'histoire du jazz, un musicien assez oublié.
Mmh.
Alors, je sais pas. Alors, de temps en temps, on en entend parler parce que
comme ça. Des fois, certains pianistes s'en réclament un peu pour manifester, pour signifier leur non-appartenance à la lignée Bill Evans. Et il s'agit de Herbie Nichols. Ça vous dit rien ?
Ah ouais, Herbie Nichols, justement, il m'a beaucoup influencé dans mon jeu de piano. Non, je sais pas très bien. Ouais.
En fait, récemment, ça m'est arrivé d'entendre ou de lire des interviews de musiciens qui disaient qu'ils avaient voulu sortir de l'influence de Bill Evans. C'était tellement une lignée dominante dans le jazz que... Et du coup, eux se référaient à des gens comme Monk ou Herbie Nichols. Et c'est un musicien très curieux parce que apparemment il avait aucun sens du business. Enfin, je sais pas, il s'y est pris apparemment comme un manche parce qu'il n'arrivait pas à enregistrer. Alors que pourtant beaucoup de musiciens l'admiraient. Et pendant longtemps, il a joué en fait il a été beaucoup employé pour jouer du Dixieland ou des trucs comme ça, alors que lui voulait faire des trucs plus modernes. Et il a enregistré en fait 3 disques entre 55 et 57 avant de mourir assez jeune.
Remarque que, excuse-moi, je te coupe, hein, mais que c'est parfois il y a des musiciens qui s'y prennent même pas comme des manches, c'est juste que. Ça suit pas, le public est pas là. Il y a des dans un certain milieu, on s'intéresse à eux et puis même si
oui bien sûr, oui.
Comme ça,
non c'est vrai et c'est juste
très
un peu
triste,
étonnant mais... parce que ce type était enfin si tu veux tu comprends vraiment pas du tout parce que sa musique est super en même temps elle est pas enfin voilà ça elle pouvait tout à fait enfin c'est pas dingue si tu compares à Monk ou même ouais. à la même époque à la fin des années 50 il y avait
alors c'est Ornette pas inécoutable quoi ouais.
Voilà non au contraire c'est même vous allez voir. Et donc voilà et souvent ces compositions sont très chouettes et avec des formes assez inhabituelles et notamment là, c'est en trio donc piano contrebasse batterie. Et notamment, là, le premier morceau qu'on va entendre, c'est un exemple de comment il avait une façon d'utiliser de la batterie de façon... les interventions de la batterie sont... on n'entend pas ça dans d'autres trios. C'est souvent très bref. C'est pas des solos, c'est pas des 4-4. Et même le morceau, là, se termine par la batterie, ce qui est très, très rare, en fait. Les morceaux qui se terminent, ça fait même une sorte de petit choc. Et les compositions sont vraiment super. Donc on écoute un morceau qui s'appelle Terpsichore et qui a été enregistré en 1956 avec Al McKibbon à la contrebasse et Max Roach à la batterie. Ouais.
Ah oui, donc il était quand même dans le...
Ouais, il a joué... Ouais, on écoutera un autre morceau tout à l'heure avec Art Blackie.
Thank you.
super. Ouais. C'est vachement bien.
Ouais, voilà, donc c'est très curieux. C'est assez énigmatique. Donc c'est un des trois disques qu'il a sorti. Et tout à l'heure, on écoutera un morceau de son premier disque avec donc Art Blakey à la batterie. Et vous allez voir, ce sera assez marrant. On entendra plein d'influences de vieux jazz avec la pompe à la main gauche et puis en même temps des trucs hyper modernes. Je suis sûr que ça a inspiré Cécile Taylor, j'en suis certain. Et voilà, bon, bref, on en reparlera.
Et tu peux nous en dire un peu plus, il est de quel, il est d'où sur ce bonhomme, tu as des infos de type biographique?
De type biographique, non, pas vraiment.
Ouais. D'accord.
Non, mais enfin, ce que je sais quand même, c'est qu'effectivement, il raconte. Enfin, je sais qu'il écrivait, ça c'est assez marrant, qu'il écrivait dans des revues, des fois, ou même des textes de pochette. C'est assez curieux. Et qu'aussi, il a raconté qu'il avait participé au jam au Mintons, là où, en fait, au début des années 40, tous les musiciens qui allaient créer le bebop faisaient leur... Enfin, étaient en train de créer le bebop. Mmh. Et lui, il a été complètement rebuté par le côté compétition.
Ouais.
Voilà. Et c'est là qu'il a rencontré Thelonious Monk. Et c'est vrai que ça s'entend quand même que... Enfin, ça, il s'en réclamait. Il disait qu'il avait beaucoup d'admiration pour Thelonious Monk. Et on sent bien que c'est un peu la même famille, mais en même temps, avec une personnalité très différente.
Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une filiation. Enfin, il y a un rapport.
Ouais.
Vrai.
C'est
la famille,
c'est...
quoi.
Ouais.
Clairement.
Mais avec une personnalité en même temps, très personnelle. Mm. Enfin, surtout si on écoute plusieurs morceaux... on voit vraiment il y a un univers très particulier quoi. Voilà, on en réécoutera.
Ouais. Alors en ce qui me concerne, j'aimerais vous faire écouter un extrait du dernier album de Jill Scott Heron.
Dernier.
Pas le tout dernier, enfin le tour dernier. En fait, c'est un remix. C'est des remixes de son album.
Ouais.
Donc c'est celui qui est sorti en 2010 qui s'appelle I Am New Here et le morceau s'appelle Me and the Devil. C'est un des morceaux les plus connus de cet album et il y a eu des clips. J'ai souvenir d'avoir vu un clip qui était.
Mais récemment, il a continué à faire des disques.
Oui, en fait, il a une sorte de comeback peu de temps avant sa mort, puisque donc il est mort il n'y avait pas longtemps. C'était cet été. Il a fait un comeback avec un disque sorti en 2010 après de longues années de silence et de galères entre la prison, la dope, l'alcool et tout ça. Walking side by side,
see why I keep on dogging me around. Must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may bury my body down.
Ça a vraiment rien à voir avec, avec les vieux trucs. Si.
Ben si, parce que finalement, c'est, je trouve que c'est les mêmes procédés, sauf que c'est pas plus la, évidemment la musique des années 70, enfin ouais. Surtout de l'époque où, de ce qu'on connaît de lui. Mais c'est un peu le même genre de procédé, c'est-à-dire des espèces de tapis, sauf que là, c'est pas groove funk années 70, quoi. Mais ouais. Et là-dessus, ces élucubrations mi-chantées, mi-parlées, de ces poésies un peu...
Il a l'air quand même nettement... Enfin, il a l'air complètement au bout du rouleau quand même. La voix est complètement...
Bah ouais, on a l'impression d'un... Effectivement, d'un peu d'un mort-vivant, c'est triste à dire, mais ça participe aussi, je trouve. Je trouve ça assez, assez beau, finalement.
Ouais.
Il y a un truc très prenant dans sa voix, dans son élocution. Effectivement, t'as l'impression d'un vieillard ou de quelqu'un qui est vraiment...
Ouais. Mais la musique est curieuse, c'est hyper sombre et glacial, quoi.
Alors ouais, l'album est dans je trouve.
Tu sais qui a fait ça ?
Alors non, j'ai pas. Alors en fait, pour la petite histoire et pour les auditeurs, je suis arrivé avec mon bel ordinateur portable dans lequel j'y avais tout mis et il a pas démarré ce con.
Ah oui.
Je suis très inquiet. D'ailleurs, vous pourrez envoyer des dons. Je vous donnerai mon adresse à la fin pour que je puisse
T'acheter un MacBook Pro.
Voilà. Oh. Exactement.
Des oreilles.
Ce qui sera indispensable à notre mission.
Free.fr. Voilà, vous pouvez envoyer vos dons.
Voilà. Vos mails d'encouragement. Et donc, j'ai pas trop. Non, alors j'ai pas eu le temps. Voilà, je connais pas trop l'histoire de ce disque en fait, ni qui ils sont. Parce qu'il y a forcément d'autres gens derrière la musique et la production. Et même, je pense aussi, derrière l'idée de l'avoir fait revenir comme ça sur un disque. Mais y a, voilà, c'est un disque que j'aime bien. Mais oui, tout est dans cette tonalité très, très...
C'est très noir. Très noir. Ouais.
Avec aussi un peu des sons comme ça, un peu de synthé, un peu années 80. C'est assez étrange. Hein, voilà.
Alors... Moi récemment j'ai beaucoup écouté une pianiste. J'avais une version de les variations Goldberg depuis très longtemps et puis j'ai réécouté pas mal de choses aussi d'une pianiste américaine qui s'appelle Rosaline Turek et qui a enregistré quasiment uniquement la musique de Jean-Sébastien Bach. Qui est une personne étrange, enfin intéressante parce qu'elle a Elle est née en 1914, elle est morte en 2003, donc il y a quelques années, assez âgée. Elle a très peu enregistré, elle a enregistré quasiment que Bach, comme je viens de le dire, et surtout elle a créé une sorte de fondation pour la recherche sur la musique de Bach. Et récemment, je suis tombé sur un disque que j'ai eu énormément de mal à trouver dans le commerce, qui sont les enregistrements des partitas qu'elle a enregistrés en 1998. En tout cas, c'est sorti en 1998 sur EMI. C'est peut-être beaucoup plus ancien que ça, parce que en 98,
parce qu'elle devait être vieille.
Devait être très très vieille. Ouais. Mais c'est absolument extraordinaire. Elle a une sorte de pureté de jeu et de son toucher et un côté absolument pas mécanique mais en même temps très 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 droit, enfin c'est vraiment très très beau, elle a vraiment un son magnifique. Et donc ce disque c'est les 6 partitas je crois de Bach qu'elle a enregistré. On écoute juste un extrait d'une gigue qui est extraite de la partita en si mineur numéro 1. Voilà. Incroyable.
Ouais.
En fait, j'ai trouvé sur le site donc de sa fondation qui s'appelle Bach Research Institute que ce disque était publié en 98. Et c'est évident que la prise de son, c'est beaucoup plus ancien que ça.
Bah oui, oui.
Ah oui.
Néanmoins, c'est la date de publication. Bon, elle a joué dans les années 50. Elle a commencé d'ailleurs. J'ai lu ça tout à l'heure sur une rapide biographie. Elle a commencé. Sa carrière en jouant du thérémine et notamment à New York, elle est américaine. Donc elle jouait du thérémine en fait.
Et elle s'est fait connaître, j'ai vaguement une idée de ce nom, c'est un peu une sorte de pianiste culte, mais qui a joué principalement que Bach, non
oui.
C'est pas
oui,
ça
oui, 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 elle a joué quasiment que Bach. Pas tout à fait, hein, mais...
Oui, enfin, j'imagine que non, mais elle est surtout connue pour ça.
Mais Glenn Gould a pas mal parlé d'elle, fait parler d'elle en fait. Ouais. Et c'est beaucoup, beaucoup plus délicat que Glenn Gould, tout en étant quand même assez maîtrisé, avec toujours un côté très... un tempo hyper très solide.
Et puis très clair, enfin très analytique. Mais c'est super beau. Et je trouve que le son, même ces vieux sons-là, en fait, ça contribue, en dehors du son, que probablement elle avait un très beau son. On entend que c'est un...
Ouais.
Voilà. Mais en plus, l'enregistrement, ces enregistrements qui enlèvent plein de fréquences, qui amaigrissent le son, qui font presque ressembler à un instrument ancien ou un truc. Enfin, c'est vraiment super beau, quoi.
Donc ces deux disques, c'est toutes les partitas, là, c'est vraiment magique.
Mais t'as téléchargé tout ça sur le site de la fondation?
Non,
il y a des extraits, mais sinon on le trouve.
J'ai trouvé en bibliothèque ces deux disques. Ils sont parus dans une collection bizarre, les pianistes du siècle, de je ne sais quel... enfin bref. et qui est complètement épuisé. Et j'ai voulu l'acheter et ça, j'ai trouvé des exemplaires à 90 euros sur
ah oui, ah d'accord,
sur Amazon ou sur eBay. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Puis je l'ai téléchargé illégalement comme un gros salaud.
Ouais.
Mais c'est magnifique.
Bah ouais, super. Bah j'essaierai de faire comme toi.
De le télécharger légalement.
Ouais.
Eh ben, vous me donnerez tous les deux 90 euros. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est mon label qui a ressorti. Enfin, voilà, j'ai des activités cachées. Et
tu peux nous les filer, alors.
Ah oui, attention. Oula, oula, oula.
Alors, la mission ce soir, hein. Arrêtez vos conneries avec vos bonnes merdes.
Alors, mission, elle était...
Alors, vous le savez, parce que pour les auditeurs qui nous... Voilà, qu'on n'aurait pas tout à fait suivi les derniers développements de Des Oreilles avec des Trous, maintenant, ce sont nos auditeurs, nos chers auditeurs, qui nous donnent des missions à remplir.
Ouais. Et là, c'est toujours
grâce
le même
à notre, grâce à notre adresse email que je vais réitérer, qui est desoreilles@free.fr. Vous pouvez donc nous écrire et nous demander de ramener tel ou tel morceau avec telle ou telle contrainte. Et en l'occurrence, nous avons un gentil auditeur
qui s'appelle Fabiyama.
Fabiyama, voilà. Bonsoir ou bonjour Fabiyama, selon l'heure à laquelle tu nous écoutes. Nous espérons que tu vas bien.
Oui.
Et la mission que tu nous as confiée, c'était de ramener un morceau avec un verre de cristal et une voix de femme.
Oui, c'était voilà. Ça.
Et donc, c'est hyper dur.
Je ne sais pas comment tu as réussi à te sortir de ce...
Oh, si, il y avait des astuces. Alors évidemment, j'ai tout de suite pensé à la Castafiore et aux cantatrices qui font voler en éclats des verres en cristal en chantant dans les suraigus. D'ailleurs, est-ce que c'est véridique? Oui, c'est vrai que ce n'est pas des conneries.
On peut y arriver? Je ne sais pas.
Ou est-ce que c'est une légende?
J'en sais rien, ça, alors là.
Oh, merde.
Mais je pense que c'est surtout moi au jeu de verre en cristal, enfin au jeu de le doigt sur doigt sur le verre mouillé.
Voilà, alors le doigt sur le verre mouillé qui fait un peu comme une voix de femme qui fait i.
Ouais.
C'est bien connu, les femmes ont une voix qui font i. Et en fait, je me suis plutôt orienté vers un instrument que j'aime bien et je sais pas si on en a beaucoup parlé depuis les années qu'on fait cette émission, ce sont les cristals bâchés.
Ah, bien sûr.
Les cristals bâchés sont des instruments de musique inventés par deux frères, les frères Bâchés, au début des années 50, qui ont créé des sculptures sonores en cristal, qui sont magnifiques, et qui, d'abord visuellement, qui ont été ensuite pas mal utilisées dans beaucoup de contextes musicaux divers et variés, hein, ça va allant de la variette à la musique contemporaine.
Alors, on se mouille les didis et on frotte des tiges ou pas?
Alors, il y a plusieurs types de cristal de structures bâchées en cristal. La plus connue, c'est effectivement c'est des espèces de verges en cristal qu'on astique.
Ouais.
Et qui ont ensuite des résonateurs en tôle acoustique qui permettent d'avoir de résonner.
Oui.
Et donc, c'est une sorte de clavier avec des bâtons en cristal plus ou moins grands. Mais il y a aussi d'autres structures bâchées en cristal. Et donc là, je vous ai trouvé... alors, j'ai cherché un morceau, on entendrait des cristals bâchés. Alors, je suis désolé, ma mission n'est pas parfaite parce que ce n'est pas des verres en cristal. Mais c'est un peu quand même du verre en cristal, quoi.
Ouais. Le
cristal, ouais. C'est presque comme du verre. Enfin bon, c'est du cristal, du verre en cristal. voilà, j'ai trouvé un morceau où on entend chanter une femme tout en entendant des cristaux. Ça fait bizarre, hein, de dire des cristaux bâchés, des cristals bâchés, des cristaux bâchés. Alors, ce morceau est le fait d'une compositrice de musique contemporaine qui. J'ai toujours oublié mon ordi, alors ça, c'est je pourrais pas être très très développé la chose, qui s'appelle Florence Bâchet.
Ah.
Alors, dans sa biographie, il n'est nullement fait question qu'il y ait un lien de parenté avec les frères Bâchet, mais ça me semble quand même assez probable, vu qu'elle est compositrice, mais dans ses compositions, elle a beaucoup utilisé les structures Bâchet.
Et ça s'écrit pareil.
Ça s'écrit pareil, et elle est née dans les années 50, au moment où était créé le...
C'est pas Christiane Bachelet, par exemple.
Non, c'est pas Florence Bachelet.
Non, Florence Bachelet,
Bachette, ou Sidney Bechet non plus.
Non.
Et donc, on va écouter une œuvre qu'elle a créée assez récemment, donc pour Cristal Bachet, voix donc de femme, clarinette, violon alto. Ça s'appelle Alma Luvia. C'est parti. Voilà, Alma Luvia par Florence Paché.
On a du mal à... Enfin, on entend bien le...
En fait, le truc, c'est que c'est aussi retraité par des procédés électroacoustiques en direct. Ah ouais. Ce qui fait que ça fait un bordel. Et effectivement, les structures Paché, on devine des sons étranges, mais on ne les entend pas. Malheureusement, je n'ai pas trouvé un duo acoustique Crystal Paché avec...
Enfin, ça colore quand même, ça donne une couleur.
Ah, oui,
ça, on ne le distingue pas vraiment, mais ça donne une couleur assez particulière, cette pièce
bien
de Florence Paché.
Bien sûr, cette pièce, cette magnifique pièce de Florence Paché.
Alors, je ne sais pas si tu acceptes cette idée, parce que, après tout, c'est ta mission. Mais bien entendu, si notre ami Fabi Yama avait une idée dans le derrière le coin de la tête...
Et il semble bien qu'il
il peut très bien nous envoyer
Le morceau,
en MP3, ouais. Le morceau sur notre adresse électronique. Et puis on verra si c'est assez bien, on le passera.
Ouais. Mais il a intérêt à ce que ce soit bien ou au moins aussi bien que cette pièce.
Parce que
Florent,
là, ça t'a mis la barre assez haute. Quand même.
Ah bah, c'est clair.
Voilà, bon, je vais enchaîner avec
Ah bah non.
Non, c'est pas moi.
Ah non, c'est à moi.
Ah bon?
C'est pas à toi.
C'est ah
pas
non, à moi. C'est à moi.
Ah bon, alors vas-y, alors.
Bah on écoutait qu'un morceau de Nicolas, Herbert Nicolas.
Bah oui, ah oui,
de,
t'as absolument raison. Herbie, oui, on tourne
Herbie
dans le. J'avais oublié qu'on tourne, on tournait dans le sens anti-horaire.
Excusez-moi, je mange une chips. C'est haut dans le micro, ça doit être tout à fait désagréable.
Alors donc, je continue avec Herbie Nicholas, avec un extrait de son premier album qui s'appelle The Prophetic Herbie Nicholas. Et c'est un morceau qui s'appelle The Third World. Et donc, c'est avec Herbie Nicholas au piano, Al McKibbon, toujours à la contrebasse, et cette fois-ci, Art Blackie à la batterie, et non pas Max Roach, comme dans le morceau précédent. Et voilà, enregistré le 6 mai 1955 au Rudy Van Gelder Studio à Hackensack, New Jersey.
Oh, yeah.
Thank you.
Voilà, Herbie Nichols, The Third World. C'est super, hein,
c'est très bien. Moi, est-ce qu'il a fait par hasard des disques? Il a fait que des disques en trio?
Ouais, il a fait trois disques en trio. Et en fait, les deux dont je vous ai fait écouter un morceau de chaque, là, les deux premiers sont les mieux. Celui de 57 avec Danny Richmond à la batterie, je le connais pas bien, je l'ai écouté que récemment, mais ça me plaît moins. Mais ces deux-là, là, je trouve que c'est vraiment fantastique. Et enfin voilà, j'adore.
Mais il serait pas mort jeune pour avoir disparu
Si, il est mort. Est mort assez jeune. Je sais pas à quel âge exactement, mais il est mort. Alors déjà, il a enregistré tardivement dans sa carrière, et en plus, il est mort juste après, assez jeune. Mmh. Après avoir enregistré juste 3 disques.
Et il est mort de quoi?
Je sais pas trop. Je vous dirais. Il y a un bouquin qui est sorti sur lui, mais je l'ai pas lu. Et puis, moi, c'est marrant parce que j'ai écouté le premier disque de Cécile Taylor il n'y a pas longtemps, 57. Taylor, qui est donc vraiment un des pionniers du free jazz. Et vraiment, c'est pas possible. Il y a des choses qui ressemblent vraiment à du Herbie Nichols.
Ah oui.
Et je suis persuadé qu'il y a vraiment un truc, une filiation très consciente, quoi. Voilà. Et je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je signale juste, du coup, puisqu'on n'aura pas le temps de l'écouter, qu'il y a pas mal de musiciens qui ont défendu sa musique par la suite. Alors il y a d'abord Marie-Lou Williams, qui avait consacré un album au début des années 60 à sa musique. Il y a Roswell Rudd, le tromboniste, super tromboniste, et Steve Lacy, qui ont aussi souvent enregistré des compositions d'Herbie Nichols. Et Buell Neidlinger, qui était le contrebassiste violoncelliste de Cecil Taylor, justement, et qui a beaucoup joué aussi sa musique.
On aura peut-être le temps de...
Ouais, si on a le temps, on écoutera. J'ai amené une compo d'Herbie Nichols par Buell Neidlinger. Voilà.
Bon, moi, excuse-moi,
je t'interromps. On n'a pas assez insisté sur le fait que, donc, excusez-moi, hein, ça n'a rien à voir. Il faut que vous nous envoyiez des missions.
Ouais.
Voilà.
Ah donc,
écrivez-nous à desoreilles@free.fr avec une petite mission qu'on sera en plaisir de remplir.
Voilà. Envoyez-nous des missions.
À l'ordre
j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas.
À l'ordre de nous envoyer des de la Sayette.
Accompagné de votre chèque à l'ordre de DD de la Sayette.
Alors, moi, j'ai dans ma boîte de free, non pas dans ma free box, j'ai un morceau qui date de l'émission sur le printemps. Ça fait un moment.
Oh là là, ça,
ça fait un sacré bail.
On ne se souvient plus du tout.
Moi non plus.
Voilà. Et
si on avait passé les 4 saisons de Vivaldi, je crois qu'on
aurait ronde de printemps de Debussy. Ouais.
Et. C'est un morceau d'un groupe de rock français qui s'appelle, je crois français, pas très sûr, mais je pense, qui s'appelle les Louise Mitchells. Et le morceau s'appelle « Ça sent le printemps ». Je ne l'ai pas réécouté depuis, mais je sais qu'à l'époque, quand j'avais préparé cette émission, j'avais trouvé ça très bien. Ah bah ça ça résout à la fin, c'est super. Bon ben c'est voilà, c'est un groupe de rock qui s'appelle les Louise Mitchells. Et je sais pas grand chose d'eux, mis à part qu'ils ont joué au festival Tinnitus en Allemagne, que j'avais déjà entendu parler d'eux une fois et que j'ai écouté très peu de leur musique. Voilà.
Mais c'est pas mal.
Ok, bah on va finir avec un morceau de Sumatra.
Oh.
Mais c'est pas tout à fait de la musique vraiment traditionnelle.
Ah. On y va ?
Oui. On y va. Bon. Et ben on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une émission consacrée au minimum.
Au minimum, absolument. Ouais, ouais. Et à bicyclette, bien sûr.
Bien sûr.
On va faire le minimum.
Le minimum.
Syndical. Minimum syndical.
Ile onak karo nangale